bonne question pour vous. Quelle traversée a exigé le plus de foi de la part du peuple d'Israël? Celle de la mer Rouge ou celle du fleuve du Jourdain? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse à la fois claire et surprenante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions aujourd'hui et je ne serais pas surprise qu'elles soient aussi vos questions. Les voici. Devons-nous obéir à Dieu quand il nous enseigne de faire des choses qui vont à l'encontre des lois des hommes? Est-ce que Dieu est méchant lorsqu'il envoie quelqu'un en enfer? Est-ce que la foi véritable nous pousse à agir? Qu'est-ce qui exigeait le plus de foi de la part du peuple d'Israël? Traverser la mer Rouge ou traverser le fleuve du Jourdain? Comment nous identifions-nous au Seigneur Jésus? Comment la purification de nos péchés se fait-elle? Restez avec nous. La parole de Dieu va nous enseigner des choses merveilleuses, une fois de plus par la bouche du pasteur Régent Joly. On peut tellement voir la fidélité et l'amour de Dieu à travers tous ces bons enseignements qu'il nous donne régulièrement au cours de nos émissions. Demandons à Dieu de toucher nos cœurs par sa parole. Demandons-lui de se faire connaître à nous davantage. Prions. Oui, Seigneur, tu sais comment toucher nos cœurs. Tu nous connais, tu nous sondes et tu nous connais. Touche-nous par ta parole aujourd'hui. Fais-nous connaître davantage ce que tu es, quel Dieu merveilleux tu es, afin qu'on puisse mettre toute notre confiance en toi, dans tout ce que tu nous demandes. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu Josué ordonner au peuple de faire des provisions avant de traverser le Jourdain. Une fois dans la terre promise, la manne cesserait. Cette manne est une image du Saint-Esprit. Tout comme les Israélites devaient cueillir la manne chaque jour, de même le croyant doit venir à Dieu dans la prière chaque jour, afin d'être rempli de l'Esprit. Deux espions furent envoyés pour explorer la ville de Jéricho et ses environs. Cette fois-ci, leur mission n'était pas de déterminer si la conquête était possible, mais de trouver la meilleure tactique pour la faire. Donc, nous n'avons pas la répétition de l'erreur faite il y a 40 ans lorsque 12 hommes furent envoyés explorer la terre promise. Les deux espions furent cachés par Rahab, une prostituée dont la foi exemplaire est citée à 2 reprises dans le Nouveau Testament. Cette femme avait une foi agissante. Elle a secouru les espions au péril de sa vie. Une véritable foi est toujours agissante, chers amis. Maintenant, à la fin de la dernière émission, nous avons dit que nous répondrions à quelques questions. Pourquoi Rahab a-t-elle protégé les espions? N'a-t-elle pas manqué de respect aux autorités en trahissant son peuple? Doit-on approuver ce qu'elle a fait? Il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Quel beau principe que nous retrouvons dans la Bible. La Bible nous demande de respecter les autorités, et c'est ce que nous devrions faire. Les chrétiens devraient tous être des citoyens exemplaires, respectueux de la loi. Cependant, lorsque les lois de l'État contredisent la volonté révélée de Dieu, le chrétien doit obéir à Dieu. Ce fut le cas de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean lorsque les autorités leur interdirent d'enseigner le peuple. Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Actes chapitre 4, versets 19 et 20. Le croyant doit obéir à la parole de Dieu avant celle des hommes. Maintenant, laissons Rahab expliquer elle-même pourquoi elle a aidé les espions. Poursuivons notre lecture du livre de Josué, chapitre 2, versets 8 et 9. « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Rahab nous fait voir ce que pensaient les Cananéens en voyant Israël arriver. Ils pensaient qu'Israël allait s'emparer du pays. La population est terrorisée. C'est ce que Rahab dit aux espions. Elle était dans la situation idéale pour connaître toutes les rumeurs et voir l'état d'âme de la population en général. Verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Quand est-ce que cela s'était produit? Bien, il y a 40 ans de cela, chers amis. Oui, pendant 40 ans, Dieu a donné aux habitants de Canaan l'occasion de venir à lui. C'est justement parce que Dieu voulait donner au peuple de Canaan le temps de se repentir qu'il a permis qu'Israël aille en captivité en Égypte. Leur captivité a duré 400 ans. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. C'est ce que nous lisons dans Genèse, chapitre 15, verset 16. En fait, ces peuples ont eu 420 ans afin de se repentir, afin de retourner vers Dieu. Admirez ici la grâce de Dieu envers le pécheur. Dieu est lent à la colère. Des érudits affirment que le Dieu de l'Ancien Testament est méchant, cruel et barbare. Cependant, en plus des 420 ans, Dieu leur a accordé un autre sursis de 40 ans. Pendant ce sursis, ils ont su comment Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Dieu n'a pas détruit des peuples qui n'avaient pas entendu parler de lui. J'ai une question à poser à ceux qui critiquent et qui jugent Dieu. Combien de temps aurait-il dû leur donner pour qu'ils se repentent? Nous avons toujours ce même Dieu. Il a affirmé clairement que ceux qui rejetteraient son Fils iraient en enfer, dans un lieu de perdition et de souffrance éternelle. Est-ce que cela vous surprend que notre monde civilisé rejette le concept de l'enfer? Lorsque le jugement viendra, il s'en trouvera pour affirmer que Dieu aurait dû donner à tous davantage de temps pour se repentir. Mes amis, Dieu nous a déjà donné plus de 2000 ans. Dieu est patient, lent à la colère et miséricordieux. Combien de temps voulez-vous qu'il nous donne encore? Le monde a eu plus de temps qu'il n'en faut pour se repentir. Et vous, chers amis, que faites-vous de cet appel à la repentance? Rahab a dit, « Nous avons appris. Observez la réaction des habitants du pays. » Josué, chapitre 2, verset 11. « Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. » Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Malgré qu'ils aient appris et cru qu'Israël prendrait le pays, ils ne se sont pas tournés vers Dieu. De nombreuses personnes, aujourd'hui, croient que la crucifixion est un fait historique. Ils croient que Jésus est mort et ressuscité. Cependant, cela ne les sauve pas. Qu'est-ce qui sauve une personne? Mettre notre entière confiance en Jésus-Christ pour nous sauver. C'est venir à Jésus et avoir une relation intime avec lui. C'est une décision, c'est un choix. Versets 12 à 14. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » La véritable foi est agissante. Non seulement est-ce que Rahab croit, mais sa foi la porte à agir en conséquence. C'est pourquoi elle a risqué sa vie pour aider les espions. Elle a appris, elle a cru, et elle a agi. La véritable foi est agissante. C'est ainsi que fonctionne le salut, mes amis. Vous entendez l'Évangile, la bonne nouvelle, au sujet de ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Vous croyez l'Évangile et vous mettez votre confiance en Jésus-Christ seul. Rahab croyait fermement que Dieu donnait le pays à Israël, et elle s'est virée vers le vrai Dieu vivant. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Hébreux chapitre 11, verset 31. Les espions ont promis d'épargner Rahab et sa famille. Verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si le roi de Jéricho s'était viré vers Dieu, il aurait été sauvé. En fait, si toute la ville avait cru en Dieu, elle aurait été épargnée. Maintenant, lisons le rapport des espions, versets 23 et 24. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Ce rapport est très différent de celui fait il y a 4 décennies. La question n'est pas de savoir si Israël entre dans le pays. La nation va s'en emparer. Les espions rapportaient les paroles de Rahab. Tous les habitants du pays tremblent devant nous. Traverser le Jourdain était un pas de foi majeur pour Israël. Il y a 40 années, le peuple avait échoué le test de leur foi. Traverser la mer Rouge pour aller dans le désert demandait de la foi, mais traverser le Jourdain demandait une foi encore plus grande, car une fois de l'autre côté, il était impossible de revenir sur ses pas. Une fois dans la terre promise, Israël devait faire face à l'ennemi, ses chariots et ses forteresses. La nation entière avait confiance en Dieu. Josué, chapitre 3, versets 1 à 4. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Dieu a ordonné à Josué et au peuple de traverser le Jourdain. Cette traversée fut très différente de celle de la mer Rouge. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a frappé l'eau avec sa verge. Pendant la nuit, les eaux se sont reculées, mais la traversée du Jourdain fut un miracle plus grand. Si la rivière est petite pendant la saison sèche, elle déborde pendant la saison des pluies. Donc, leur traversée impliquait retenir les eaux qui coulaient vers la mer morte. De plus, l'arche devait précéder le peuple d'une distance d'environ 1 kilomètre. L'arche devait être portée par les sacrificateurs qui devaient s'avancer jusqu'à la rivière et se tenir sur la rive. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'accumulèrent comme s'il y avait un barrage, alors que les eaux qui descendaient vers la mer morte furent coupées. Il se forma un passage par lequel le peuple traversa le Jourdain. Dans ce pays, il y a 2 saisons de pluie, une au printemps et l'autre à l'automne. Les pluies printanières sont beaucoup plus abondantes. Cette traversée se fit au printemps. Il se peut que la population de Jéricho ait cru qu'il aurait fallu plusieurs jours, même quelques semaines, pour que le peuple traverse le Jourdain. La population ne se croyait peut-être pas en danger immédiat. Cependant, certains auraient pu se douter que quelque chose se produirait, surtout en pensant aux événements survenus 40 ans plus tôt. Versets 16 et 17. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Les sacrificateurs se sont tenus au milieu de la rivière avec l'arche tant que tout le peuple n'eut traversé. Les Israélites traversèrent devant Jéricho, mais les eaux se sont accumulées jusqu'à Adam. Nous ignorons l'emplacement exact de cette ville. Cette traversée du Jourdain est une image de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. De plus, l'arche est un des meilleurs symboles du Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Au cours des 40 dernières années, l'arche était aménagée au centre du camp des Israélites. Chaque soir, les 12 tribus campaient autour de l'arche. Maintenant, l'arche, qui est le symbole du Seigneur Jésus, précède le peuple dans la rivière. Le Seigneur Jésus nous a précédés dans la mort. Il marche avec nous alors que nous sommes dans ce monde. Mais il nous a précédés dans la mort, et lorsqu'il est mort, ce fut pour vous et moi. 12 hommes sont désignés pour sortir 12 pierres du Jourdain. De plus, 12 autres pierres sont empilées au milieu du Jourdain afin de servir de monument commémoratif. Lorsque l'arche sort de la rivière, l'eau reprend son cours normal. Chapitre 4, versets 1 à 3. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » C'est ce qu'ils firent. Elles devinrent aussi un monument commémoratif. Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Ces 12 pierres rappelèrent toujours à Israël la puissance que Dieu avait déployée pour les faire traverser le Jourdain. Verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain. à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Êtes-vous en Jésus-Christ? Faites-vous un avec lui. Maintenant, nous pouvons faire une application spirituelle de cet événement sensationnel. Il est une image de la mort et de la résurrection de Christ. Les 12 pierres dans le Jourdain sont un symbole de la mort de Jésus pour son peuple. Et les 12 pierres dans le lieu où ils passèrent la nuit sont un symbole de sa résurrection. Le Seigneur Jésus fut crucifié il y a environ 2000 ans, et l'apôtre Paul affirme clairement que nous sommes identifiés à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Nous sommes identifiés au Seigneur Jésus dans sa mort. Lorsqu'il est mort, il est mort pour nous, pour moi, pour vous. Sa mort est notre mort. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Aujourd'hui, nous sommes unis à un Sauveur vivant. C'est en autant que nous faisons un avec le Seigneur Jésus que nous pouvons jouir des bénédictions spirituelles. J'espère que vous vous rendez compte que nous, les croyants, sommes identifiés au Seigneur Jésus-Christ, ne faisant plus qu'un avec lui. En traversant le Jourdain, les enfants d'Israël devinrent citoyens de la Palestine. Un juif qui est hors de la terre promise est appelé un juif errant. Mes amis, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, sa mort est devenue votre mort, sa résurrection votre résurrection. C'est pourquoi notre marche avec le Seigneur et la purification des péchés se fait par la foi. Tout comme, il n'y a pas si longtemps, les Israélites regardaient vers un serpent d'airain élevé sur un poteau pour être guéri d'une morsure d'un serpent venimeux. Aujourd'hui, nous regardons vers Christ crucifié et ressuscité pour avoir la victoire sur nos péchés compulsifs. Le Seigneur a réglé la question de notre péché à la croix. C'est par sa puissance que nous sommes purifiés. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Citation d'Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Oui, chers amis, lorsque le Seigneur Jésus est mort, il est mort pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie. Lorsqu'il est ressuscité, sa vie est devenue notre vie. Nous sommes unis au Dieu vivant, nous sommes en lui, ne faisant plus qu'un avec lui. Mes amis, nous avons ici une grande vérité de la parole de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Cher ami, es-tu devenu une seule et même plante avec Jésus? Prochaine émission, Josué chapitre 4, verset 19 à chapitre 5, verset 15.
Merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui que non seulement on est sauvé par la foi, mais notre marche avec Dieu se fait aussi par la foi. On doit regarder à Jésus en toute confiance pour avoir la victoire sur le péché. Mes amis, réalisez-vous la portée des derniers versets que Régent a lus aujourd'hui? Je peux tellement voir l'amour de Dieu dans ces versets. J'aimerais vous les relire. Je vous encourage à prendre votre Bible et de les lire avec moi. On va y aller tout doucement pour que ces paroles pénètrent dans nos cœurs, pour qu'on puisse réellement goûter combien le Seigneur est bon. C'est dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, des versets 4 à 7. Lisons ensemble. Mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Retournons au début de ces versets. Dieu qui est riche en miséricorde. Mon ami, Dieu est riche dans sa manière de pardonner nos péchés. On est tous des pécheurs, mais il désire pardonner à chacun de nous tous nos péchés. Ensuite de ça, il dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça me fait penser à l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Tu connais peut-être ce verset par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon ami, connais-tu un plus grand amour que ça? Et ensuite, il nous dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » As-tu reçu cette grâce, ce cadeau de la vie éternelle? Es-tu né de nouveau? As-tu mis toute ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle? Et ensuite, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu as reçu ce don de la vie éternelle, si tu es devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus, tu es déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Tu peux déjà goûter à sa présence, vivre dans son amour. Puis il termine en disant, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Paul parlait il y a environ 2000 ans avant aujourd'hui. Il parlait des siècles à venir et le salut s'est rendu jusqu'à nous, mon ami. Il accorde encore sa grande bonté à tous ceux qui viennent à lui en passant par son Fils Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Repens-toi, détourne-toi de ta vie de péché et accepte Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur et tu vas recevoir le don gratuit de la vie éternelle.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire, et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous, parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître, et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone,
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine à tous!
Et à lundi! Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.